conséquences des restrictions sanitaires mises en place pour contenir l'épidémie. Vous écoutez RFI, il est 9h10 ici à Paris et je vous laisse avec Juan Gomez.
Merci Léa Boutin-Rivière, très bonne journée. Restez avec nous dans
Radio G 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible.
Je voudrais choisir un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs et auditrices d'Impromptu littéraire, bonjour. Cette émission est une affaire d'amitié. Amitié avec Antoine Boisseau tout d'abord, un poète angevin dont on lira ce matin des extraits de son dernier ouvrage de poésie, le 11e chez différents éditeurs. Cet ouvrage s'intitule « Supplément à la violette » et il est publié chez Tituli. Amitié également avec Éléanore Louis-Clouet, professeur de viol de gamme au conservatoire d'Angers, qui a accepté avec son partenaire Olivier Gladhofer, gambiste également, que l'on choisisse quelques plages de leur dernier CD, La Rose et le Lys, pour ponctuer cette lecture. Heureuse coïncidence, le terme viol fait écho à celui de Violette. Les textes lus au cours des impromptus littéraires le sont généralement par des voix mixtes. Pour cette émission sur Supplément à la violette, cependant, j'ai choisi deux voix masculines pour lire ces extraits. En effet, les fleurs, dont la violette, bien évidemment, ont trop souvent une connotation féminine, voire efféminée, et il me paraissait intéressant d'instaurer une rupture avec cette tradition. Bonjour Antoine.
Bonjour Paul.
Supplément à la violette est ton dernier recueil de poèmes, qui se focalise sur cette modeste fleur, la violette. En voici quelques extraits.
Dénégation de l'éphémère, introduction de la fleur dans l'ordre de la durée. La fleur pérenne, immuable, dépariée de sa saison. La fleur mentale, inscrite en nous, devenue icône, petit cœur battant, à jamais disponible. Des convulsions du monde, j'écris sur la violette, me demandant parfois si je suis en retrait de ma charge et quel serait mon endroit.
Dans le champ de la violette, Magritte donne à voir des hommes de pierre dans un univers minéral, nous exposant brutalement à notre ruine. Efficience de la peinture comme de la poésie, force en nous le déplacement vers plus d'humanité.
C'est viril, les poètes et leurs fleurs. Faut-il, pour être homme, combattre sa sensibilité, la mettre à distance, se refuser à des valeurs dites féminines? Me penchant sur la violette, je me détourne d'une masculinité ombrageuse, néfaste, mal comprise. Je me place dans le camp de la délicatesse et de la concorde, où l'on écoute et conjugue, où l'on n'oppose plus.
Thank you. Durant la préparation de cette émission, j'ai soumis à Antoine quelques réflexions qui me paraissaient essentielles sur son activité de poète. En 1949, le philosophe Adorno tire une conclusion de l'histoire du XXe siècle. Écrire un poème après Auschwitz est barbare, et ce fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d'écrire aujourd'hui des poèmes. L'impossibilité de toute poésie, c'est-à-dire de toute forme d'art, après la Shoah, est pour Adorno une évidence. Ainsi, les camps nazis, coupant l'histoire en deux et donnant forme au devenir de l'humanité, définiraient les devoirs de l'artiste comme de l'intellectuel. Cependant, Paul Celan, un poète roumain, juif de langue allemande, s'inscrit en faux contre ce dictat. En 1952, heureuse coïncidence avec le titre de ton supplément à la Violette, Antoine, Celan publie un recueil de poèmes, Pavots et Mémoires. Il publiera en 1963 La Rose de Personne. Y aurait-il chez toi une source célanienne ?
Non quant au style, mais oui quant à une visée agissante, opérante de la poésie. Plus une époque est troublée, plus elle a besoin de poésie, justement pour rester florissante dans son humanité.
En ces temps de barbarie dont nous sommes témoins, précisément, en Ukraine, au Moyen-Orient ou ailleurs, la poésie est donc pour toi tout sauf inutile. Qu'est-ce donc qu'être poète aujourd'hui, Antoine ?
Au niveau de la présence au monde, aux autres, c'est certainement la revendication de ne pas se définir ou s'accepter comme simple agent d'un système déshumanisé. C'est l'affirmation d'une sorte de dissidence, misée sur la prépondérance de la sensibilité pour la conduite de nos choix.
Quels sont tes poètes favoris, Antoine ? Surtout contemporains, peut-être, qui t'ont influencé ?
J'en citerai quatre, deux femmes et deux hommes. Deux femmes, Ariane Dreyfus et Valérie Rousseau. Et quant aux hommes, Philippe Jacotet et Jean-Michel Maulpou.
Pour quelle raison, Antoine, as-tu choisi la violette et non la rose ou le lys ?
Je voulais choisir une des fleurs les plus humbles, justement pour aller contre l'univers du paraître. Je désirais en venir à évoquer nos vulnérabilités, leur reconnaissance étant pour moi un partage efficient et libérateur. Je voulais également comprendre ce qui rend la violette communément attachante. J'avais enfin l'intention d'ouvrir vers la couleur, et par-delà, vers la peinture.
Voici des extraits. Un florilège serait sans doute le terme le plus adéquat ici, de supplément à la violette.
Elle reparaît, se laissait chercher. Elle semble trop gracile, c'est bien elle pourtant. Pétales ordonnés, minuscules cœurs blancs piqués de jaune, et ce mince renflement sous la tige recourbée. Elle est revenue se glisser en toute exactitude dans sa forme latente et sous sa cape de parfum fugace que l'air ouvre et puis replie.
Vers ce qui est le plus modeste dans l'ordre du monde, ce qui trouve sa grâce et sa distinction en l'humilité, l'absence d'apparat. Préférer le tempérament des choses simples, leur sobre éclat, leur naturelle élégance.
Enfant des violettes à ma mère, elle les disposait dans un verre à liqueur, de ces petits verres à dorure que j'ai conservés après l'héritage. On m'a rapporté qu'une fois j'avais tant serré mes fleurs dans ma paume qu'elles s'étaient flétries en chemin. Lorsque ma mère les avait rassemblées dans leur menu vase, elles étaient retombées sans vie sur les bords.
La violette appelle à la décélération, à la pause, à ce pas de côté, hors de nos affairements. Un signe discret, impromptu, au cœur des herbes tranquilles. Un signe de contradiction. Entrer un autre regard depuis son œil de violette sur nos éclosions malhabiles, nos déraisons de terriens. Son œil de violette qui nous redresserait la vue.
Berthe Morisot au bouquet de violette, Manet, 1872. La jeune peintre est aussi l'une de ses modèles. Sa beauté, mais pas seulement. Manet admire le talent et le courage de cette femme qui s'engage dans la voie impressionniste. Il lui fait même parvenir un petit tableau dont le sujet principal est un bouquet de violettes qu'il a placé près d'un éventail et d'une lettre, aux plis ouverts, adressée à Berthe et signée par lui. L'éventail, on le retrouve à la main de la jeune femme dans plusieurs autres tableaux. Quant aux violettes, Manet, marié à Suzanne, ne pouvait ignorer leur signification dans le langage des fleurs, expression d'un amour secret, tenu caché.
Deux pétales vers le haut, trois vers le bas. La violette, famille des violacées, genre viola, ordre des violales. Beauté du lexique, viola suavis, viola valicola, viola sororia, viola mirabilis, viola odorata pour celle du jardin.
Dans la mythologie grecque, la violette est créée par Zeus en souvenir de sa maîtresse, la nymphe Io. Celle-ci, changée en génisse par l'épouse, voit ses larmes transformées en de plaisantes fleurs. Le mot violette proviendrait ainsi, par mutation, du nom de la nymphe. Un tableau du Corrège montre Io enlacé par la grosse patte de brume d'un Zeus qui s'est transformé en nuage. Matisse, nymphe dans la forêt, elle étend sur le sol sa somptueuse nudité d'un violet clair. Penché sur elle, un faune et son flutio.
Violet, améthyste, aubergine, byzantium, glycine, gorge de pigeon, lavande, lilas, mauve, parme, prune, violine, zinzolin. Dans le nuancier, la déclinaison des couleurs apparentée au violet. Entre le fuchsia, si l'on va vers le rouge, et vers le bleu, l'indigo. D'abord, la pourpre antique, extraite d'un coquillage, privilège de la richesse et du pouvoir, bien longtemps avant l'obtention d'un violet d'usage.
Violette au jardin, je m'assieds auprès d'elle. Le même air, le même sol, j'en choisis une pour la rencontre avec la fleur. Elle est toute de certitude, de vie désirante. Elle se voue pleinement à sa présence. Il lui suffit d'être à son endroit, de s'y élire. Je me prête à son invite, laissant la fleur peu à peu faire son œuvre en moi. Je me tiens dans la rumeur d'une simple corolle qui me parle de ferveur. Il y a plus de 30 ans, j'ai placé une femme à part devant toutes les autres, la distinguant comme cette violette dans l'après-midi. Je ne me suis plus éloigné de cette femme éclose. Elle m'a ouvert sa corolle d'amante et son ébat de fleurs.
Est-ce à cause du ciel adouci ? On reste désarmé à la vue de la violette, de sa fraîcheur printanière. On se sent soudainement attendri, un peu dépourvu, quelque chose en nous réclamant d'abandonner là, dans l'essor de la saison, toutes nos complexités.
Cette violette du jardin m'a rapproché de l'œuvre en cours, les bas de la terre autour de moi. Je me suis senti convié. Si je délaisse mes ruminations pour l'alerte de mes sens, je suis retenu. Ce à quoi je n'avais attribué qu'une attention restreinte me devient singulier. Les fleurs, l'explosion, l'effervescence, tout ce qui s'élabore, s'étire, s'exacerbe, les fleurs, les ingénieuses, chacune allant à sa plénitude, à sa perfection, tendue vers elle-même, vers son accomplissement. Et j'éprouve à l'éveil du printemps ce sentiment de n'être pas à la hauteur.
La violette est sœur de la poésie. Elle demeure, comme elle, du côté du sensible, du moins visible, demandant que l'on s'attarde, que l'on s'éprenne. Elle est sans étalage, sans insistance. On risque de l'ignorer, de passer son chemin. Elle est d'une autre exigence, s'adressant à notre silence, à notre recueillement, s'épanouissant au sein de cette contention. Elle s'avise de l'essentiel, nous en restitue la clarté. Elle est à la fois naturelle et affûtée, à l'image du ver libre.
Quand j'évoque auprès de quelques-uns la violette et ma recension, il n'est pas rare que l'on me rapporte le souvenir d'une aïeule se parfumant, dans les grandes occasions, d'une eau de toilette à la violette. S'ensuivent alors les réminiscences, le parfum flottant dans l'air, l'effervescence dans les chambres avant une cérémonie ou un repas, l'affairement des habillages, les beaux vêtements, l'arrivée de cousins et cousines. Reviennent figures et instants de l'enfance, moments du passé auréolés d'émotions.
La parfumerie, mais aussi la cosmétique, la teinturerie, la confiserie, le goût de la violette, ce gros berlingot dans la vieille épicerie quincaillerie du village de ma grand-mère, cette glace au bord de la mer, nombreuses, digestives, dépuratives, expectorantes, émétiques, émollientes. Aphrodisiaque, disait-on de la violette odorante au Moyen-Âge. On la glissait dans les oreillers et dans la couche des jeunes mariés.
Je me souviens de voyelles et du rayon violet de ses yeux. Rimbaud encore. Les forêts violettes du bal des pendus, les figements violets, et les brumes violettes qui hantent la dérive du bateau ivre, l'étang des illuminations où se penchent de violettes frondaisons. Le poète explorant les splendeurs et l'inconnu, percevant du violet cette aura mystérieuse qui côtoie l'invisible. Car on sait que la couleur fut pour la noblesse, antérieurement au noir, celle du deuil. On songe dans le même temps au violet épiscopal, à sa moire profonde et solennelle.
Certains soirs, quand le soleil tisonne ses couleurs, on voit les longues barres de nuages tenant le bord du ciel se charger de violet, ancrer d'améthyste leur buvard gris. On croirait à une étrange cordillère venue borner le paysage, à des monts de haute terre, allumant au couchant de grands fronts violacés sur l'horizon.
Faire du violet, délicate entreprise. On avait commencé par le bleu, il faut d'abord poser le rouge. Du rouge magenta, on s'est renseigné. Trop de bleu, et voilà du brun. Trop de rouge, et c'est la lie de vin. On a omis le blanc, on repart du début. On obtient une sorte de mauve, on rajoute du bleu, on se reprend au jeu. La violette a réussi le sien. Tendre, sans être terne, pâle, sans être éteint, une douce luminosité, un éclat contenu, sa touche parmi les verts, sa note apaisante, sa manière à elle de printemps.
J'ai une fois observé les contractions d'une fleur en train de s'ouvrir. C'était celle bleu-azur d'une hippomée. Secouée de courts spasmes, elle déplissait par intermittence son pavillon. Elle s'évasait peu à peu, persévérante, répétant son effort. Elle était en travail, comme on le dit pour une femme qui enfante. Elle se délivrait sous le ciel.
La violette avoisine dans mon jardin la pervenche et son feuillage surabondant. Cette dernière lui ressemble dans sa couleur et sa façon. On l'appelle d'ailleurs également violette des sorciers. La pervenche est pour moi associée à Vinca, l'adolescente du blé en herbe de Colette. Vinca est le nom latin de la fleur. Vinca, chérie, soupire Phil auprès de la jeune fille, s'émouvant de sa première aventure.
Je me souviens de fleurs placées, puis oubliées entre les pages d'un vieil annuaire. Des violettes et des pensées, il me semble. Je les avais retrouvées par hasard, corolles aplaties et feuilles empesées. Il s'était donc un jour imposé de les soustraire à la déperdition, à l'irrémédiable, tant leur perpétuation avait paru désirable et précieuse leur préservation. La littérature la remplace par les mots, la peinture par la représentation. Pour ce que l'on nomme nature morte, la dessiccation des fleurs y renvoie davantage que, par exemple, les pétulants bouquets des Hollandais du siècle d'or.
Les fleurs ne se sont pas absentées de l'atelier. Elles continuent de séduire les peintres. Ils n'ont de cesse d'en revisiter l'image. Ils en accentuent dès lors la symbolique ou la tension, énergie, sensualité, principe de vie. Les violettes de Manet ont quant à elles traversé les siècles. Celles de Monet, qu'il a peintes dans les mains de sa femme Camille, n'ont pas un tel renom. Quelques siècles auparavant, Dürer avait consacré à ses fleurs un bouquet remarquable. Et c'est aussi un bouquet de violettes que Magritte, en son temps, vient faire figurer en lieu et place d'un visage de femme.
Ce que la science révèle de la couleur renforce notre complicité avec la fleur. D'elle, nous recevons la fraction qu'elle emprunte à la lumière. La violette n'existe au violet que par notre rencontre, notre échange, notre accordance. De la couleur, nous nous apportons l'un à l'autre le supplément d'âme.
Ce que dit la rose trémière, j'ai part au ciel, à sa rumeur et à son souffle, j'en perçois les augures, je porte haut mon antenne, ma vigie. Ce que dit la violette, je converse avec les herbes communes, j'aime leur humble compagnonnage, notre belle égalité. Nous partageons les rosées, les humeurs de notre sol. Nous sommes le petit peuple de la terre.
La qualité de la couleur et du graphisme de ces planches botaniques qu'offrent vieux livres ou papiers à grains sur les étals des antiquaires ou des bouquinistes. Fleurs parfaites et impérissables, à l'aquarelle ou au pastel, que renseigne d'un nom latin une cursive à envol. Finesse du dessin, art des teintes. De cette commande savante, nous admirons la pure beauté.
Langage de Flore, voix des fleurs, Flore des dames. Ce sont quelques intitulés de ces précis anciens du langage des fleurs, ce code né dans les harems ottomans et qui nous a été transmis, demeurant comme un jeu tendre, raffiné, ou bien un poème désuet et affecté. Violette, après le lilas, les amants lient leur serment à la tulipe. les voues à la rose rouge avant de s'adonner enfin à la chair de l'orchidée. Pour se promettre un amour durable, il se tourne vers le cyclamène ou vers l'œillet.
L'amour qui ne dit pas son nom mais se laisse entendre. Le langage de la violette nous rapporte, lui, au premier moment du sentiment, quand l'attrait se confirme, que s'avère l'attachement, regards épris, aimantation et confidence, complicité élective, cette attirance exquise qui mutuellement s'éprouve sans s'avouer encore. On se souviendra toujours de l'émoi des débuts, et même si la fièvre est passée, il reste entre ceux qui s'aiment une douce convection, une ampliation de l'air, un courant de chaleur qui n'est pas retombé.
La violette pourrait être l'attribut et le symbole de quelques métiers du soin. Elle renvoie volontiers à la bienveillance. Elle se prête, si l'on veut, à cette idée de présence discrète et réconfortante. On pense par exemple au dévouement d'un personnel soignant hospitalier, à leur prévenance rassurante. La violette a sous nos yeux cette vocation, s'avérant à la fois effacée et agissante, modeste et bienfaisante.
Nous aimons les fleurs. Nous donnons leur nom à nos révolutions. Œillets, roses, tulipes, jasmin. Nous les voulons annonciatrices, puissantes et favorables, signes d'espoir et de rébellion. Nous en faisons nos emblèmes, nos porte-voix.
La corolle de la violette, l'accueil fait au regard, dessin de la fleur, raffinement de la nécessité. Les deux pétales haussés laissent voir le cœur, son abstraction lyrique. Le troisième conduit l'œil dans l'évasement des deux derniers. Une façon du dedans d'être offert au dehors.
De Georgia O'Keeffe, ses vues rapprochées, flexueuses et vives. Cette ardeur chromatique m'entraîne vers quelques jardins de peinture, prolifération solaire chez Bonnard, palette opulente et fiévreuse de Monet. Je porte ensuite mon attention vers cet étonnant bois d'amour de Paul Sérusier, où montent les couleurs primaires et se concassent les reflets. M'enquérant des fleurs de Van Gogh, je remarque ce violet pâle qui ombre la terre vespérale du semeur, celui plus sombre qui habille la paysanne au chapeau de paille, coiffe l'homme à l'oreille coupée, fonce certains ciels tumultueux.
Être simple comme la violette, être soi et à sa place, dissocié du paraître, dans la clarté et le sensible, tourné vers l'instant, vers son ciel. Acceptant dès lors les latences, les saisons, y apprenant l'usage de la fragilité, et donc ne la craignant plus.
Je suis noué à ma nature et à ma chair, assujetti et sans certitude, inconstant et traversé d'effroi, inquiet face à l'impéritie du monde. Ma vulnérabilité, cependant, n'est pas faiblesse, puisqu'elle me relie aux autres, et que nos fragilités nous font nous rassembler.
Descendre en soi, au cœur, s'y recentrer, respirer de toutes ses feuilles, s'appliquer à cet échange, immobile, réceptif, posture de plante, adonné au vivant, accordé au présent, apaisé, enraciné.
Régénérer l'air. Nous n'avons pas, comme la plante, cette faculté. Notre emprunt, au contraire, s'initie dès notre respiration. Nous rappeler cela, cette élémentaire dépendance, nous destitue, nous ramène à notre charge, à notre rang, entre l'arbre et la fourmi.
À son terme, la violette perd sa couleur, se chiffonne et se contracte, s'étiole, se recroqueville. Elle convulse, verse sur sa tige, meurt là doucement. Elle abdique avec lenteur, dans l'acceptation de son dépérissement et de sa fin. Nous conservons en nous son image glorieuse, sa raison de fleur. Nous préservons notre violette intérieure, échappée à la dissipation.
La fleur s'est retranchée, mais la plante demeure. Bientôt tombera la graine offerte aux rosées, souvent aux fourmis, brinque-ballées, dépiautées entre les mandibules, puis rejetées dans les humus, prêtes pour le germe après la péripétie. Côté racine, on s'ingénie, s'élance de petits cordons qui vont mailler plus loin de nouveaux pieds à la terre. De quoi se projeter avant l'hiver? De cette pugnacité, nous savons nous émouvoir. Cette verve du vivant parle pareillement en nous.
Le violet dans la nature répartit discrètement. Quelques fruits, fleurs, légumes, quelques oiseaux et papillons, poissons bigarrés et algues marines, roches, météores. Le violet dans la peinture est ce recours récurrent chez Bonnard. Nuages au soir et ourlet des vagues, ombre sur un corps, un vêtement, ainsi cette robe en contre-jour dans le bol de lait, fruit dans la coupe, ce pourpre sur le velours des pêches dans une assiette, sur une chaise.
Impressionniste et symboliste, à la faveur d'un nouveau pigment, s'empare du violet et en étend l'usage au-delà du religieux et du deuil. Rothko, lui, reprend le ton du sacré dans la chapelle qui porte son nom. 14 panneaux alliant le violet au noir en occupent les murs. De Kandinsky, on retient, dans l'ouvrage du spirituel dans l'art, ce sentiment que la couleur se rapporte à la musique. Ces mots au sujet du violet, il a les vibrations sourdes du cor anglais, du chalumeau, et répond en s'approfondissant au son grave du basson. De Matisse. Ces propos où il rapproche les moyens de la peinture et ceux de la musique. Rien n'empêche de composer avec ces quelques couleurs, comme la musique qui est bâtie uniquement sur cette note. De Baudelaire avant eux, le poème Correspondance et cet alexandrin, les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Je me souviens du jeu de la cocotte. Après le pliage du papier, sur les rabats obtenus, nous portions une couleur, chaque fois différente. Nous écrivions ensuite au dos le verdict lié à ce choix s'il offrait le nombre de coups demandés, c'est-à-dire de battements de la cocotte entre nos doigts. Ce pouvait être un gage. Je préférais un qualificatif, le « tu es » révélateur, attribuant un adjectif, un animal ou un personnage. Que formulerais-je aujourd'hui concernant le violet? Tu es un rêveur, un poète, un sage, un ténébreux? Le choix du violet ne me paraîtrait sans doute pas anodin. J'y verrais à tout le moins une forme de singularité, de démarcation du commun.
De Yves, de sa prédilection pour le violet, de ces t-shirts prunes ou lavandes sous le ciel d'été, de l'immanquable encre violette qui distinguait ses courriers. Il se montrait tour à tour méditatif, faiseur de monde, ou bien impétueux, débordant. En lui s'éprouvaient l'esprit et l'essence, la spéculation et l'action, le bleu et le rouge. Je me souviens des bonbons à la violette, du papier carbone Pélican. Je me souviens de la vache Milka.
Invention florale de l'arbre à papillons. Manchon doux de petites fleurs pourpres. Tourne autour et voltige. Argus bleu, macaon, citron, pan du jour, avant de se poser, de s'appliquer quelques instants à leur butinage. À l'image du papillon, nous volotons entre plaisir et nécessité, autour de quelques absolus qui nous aimantent. Mais l'insecte, lui, ignore le temps compté.
La portée des couleurs, des notes perceptibles de la lumière. Ultraviolet, je ne vois pas, ne perçois pas, je ne capte pas, ça ne me parvient pas. Je n'ai pas eu conscience, pas eu l'impression, la sensation. Ça ne m'est pas apparu. On ne se comprend pas. C'est une façon de voir, une histoire de réception, une question de longueur d'onde.
Le charme, ajouter encore. Je m'en remets une nouvelle fois à la peinture, agrigeante et les paysages siciliens de Nicolas de Staël. Un violet franc découpe ces terres chaudes, ou bien drape leur ciel. Étagement cru des couleurs, embrasement de l'été. Mon regard trouve ici son plein contentement. Le violet que traque mon œil, ainsi que la connivence de la figure, avec l'abstraction. On connaît de ces personnes la prestance de la tulipe ou l'élégance d'Ulysse, la faconde de la pivoine ou la distinction de l'iris. Je continue de chercher du côté de la violette, de l'esprit de sobriété et de finesse, du côté du violet, de sa tempérance et de son aloi.
Antoine, aimerais-tu ajouter quelque chose ?
Juste qu'il me paraît intéressant que la poésie puisse mettre à jour tout l'univers mental qui peut se rattacher à un seul élément. On peut faire cette expérience avec tout ce qui nous entoure.
Nous arrivons au terme de cette émission sur Supplément à la Violette, le dernier recueil de poèmes d'Antoine Boisseau. Vous pourrez réécouter cette émission sur le net à votre convenance en tapant Impromptu littéraire sur votre ordinateur ou portable. Nous remercions à nouveau Éléonore Louis-Clouet et Olivier Gladhofer, tous deux gambistes, de nous avoir permis d'utiliser quelques plages de leur dernier CD. Vous pourrez vous le procurer chez votre disquaire favori. Supplément à la violette d'Antoine Boisseau est également disponible en librairie. Merci à Claude Michel pour sa disponibilité à la console. Antoine et Paul ont préparé cette émission, dont ils espèrent qu'elle vous aura apporté un supplément d'âme, si vital par les temps qui courent.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G. 101.5 ou sur le site de l'émission www.